Vous écoutez KTO Radio, il est 1h.
Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire.
Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour, bienvenue à vous et merci pour votre fidélité à votre émission Au risque de l'histoire. Le 6 mai 2023, au terme de 2 heures de cérémonie, le roi d'Angleterre, Charles III, a été couronné à l'abbaye de Westminster à Londres. Une cérémonie codifiée, une cérémonie protocolaire, onction du roi à l'abri du public, c'est des caméras, toucher des différents symboles de la dignité royale, réception du sceptre, puis enfin couronnement au cri de « Que Dieu sauve le roi ». Cérémonie hors du temps, cérémonie hors d'âge, le couronnement de Charles d'Angleterre n'en a pas moins fasciné le monde entier, comme si dans une période de crise, on voyait dans ses gestes venus du fond des âges une forme de stabilité, une forme de permanence et surtout de transcendance. L'émission Au risque de l'histoire vous propose aujourd'hui de comprendre ce rite si particulier du sacre. Quelles sont les origines du sacre ? Faut-il distinguer couronnement et sacre ? Que nous dit le sacre de ce que doit être un roi devant Dieu et son peuple ? Comment se déroule la cérémonie du sacre ? Est-ce qu'enfin on assiste au fil des siècles à une évolution du sacre ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mes deux invités, Bruno Maes et Marion Pouspin. Bruno Maes, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, maître de conférences en histoire moderne, HDR, à l'Université de Lorraine. Et vous avez dirigé, co-dirigé avec Catherine Guyon et Jean-François Jiquel, Sacre et couronnement en Europe, rite politique et société du Moyen-Âge à nos jours, donc plusieurs historiens qui se penchent sur à la fois le sacre et le couronnement, paru chez nos amis des presses universitaires de Rennes. Nous présentons très régulièrement les livres des presses universitaires de Rennes qui font beaucoup sur l'historiographie religieuse. Et puis, je souhaite présenter aussi ce livre, Le Sacre des Rois à Reims. Il s'agit d'une publication, donc, des travaux de l'Académie nationale de Reims, un hors-série, le numéro 1, paru en 2019. Marion Pouspin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu aussi à notre invitation. Vous avez participé à cet ouvrage, c'est pour cette raison que je vous reçois. Vous êtes vous-même historienne, docteur en histoire, chargée de cours à l'ICP également, agrégée. Alors, je me tourne vers vous, Bruno Maes. Le premier sacre de l'histoire a lieu à Reims. Il s'agit du sacre de Louis le Pieux par le pape Étienne IV. Nous sommes le 5 octobre 816, donc après Charlemagne. Pourquoi a-t-on décidé de donner au roi, comme cela, une dimension sacrée ? Pourquoi à cette époque-là ? Pourquoi pas au 6e, 7e ou au 5e siècle ?
En fait, le premier sacre a eu lieu non pas à Reims, mais ailleurs, pour Pépin le Bref, le père de Charlemagne, en 754. Et le pape en question, ce n'était pas Étienne IV, mais c'était Étienne II. Et donc, ça, si vous voulez, c'est très important le sacre, parce que les Mérovingiens n'étaient pas sacrés.
Oui.
Et les Carolingiens, eux, sont sacrés.
Donc Pépin le Bref qui ouvre la dynastie des Carolingiens.
Tout à fait. Mmh. Donc il y a Pépin le Bref, ensuite Charlemagne, et le fils de Charlemagne, Louis le Pieux, donc qui lui est sacré à Reims par le pape Étienne IV.
Ils sont couronnés et sacrés ?
Tout à fait. Mmh. Alors que les Mérovingiens n'étaient pas sacrés.
Alors, la raison principale, c'est une raison au fond politique, c'est-à-dire qu'il s'agit de sacrer le roi pour lui donner une légitimité.
Ça n'est pas pour lui donner une légitimité. Tout le monde se souvient, non pas du sacre de Clovis. Clovis n'a jamais été sacré, mais il a été baptisé.
Oui.
Il a été baptisé à Reims, nous dit-on, en 496. Et donc, comme la personne qui devait apporter l'huile pour le baptiser n'arrivait pas à frayer son chemin à travers ces grands guerriers francs, eh bien, le ciel s'est ouvert et la colombe du Saint-Esprit a apporté une huile, et l'huile est donc descendue du ciel, donc non faite de main d'homme. Et c'est en souvenir du baptême de Clovis que les Carolingiens, souvent les Carolingiens, sont sacrés à Reims.
Marion Pousse-Pain ?
Oui, en effet, c'est Pépin le Bref qui est le premier roi de France à avoir été sacré. Louis Ier le Pieux est le premier à avoir été sacré à Reims. Donc il faut revenir en effet sur ce premier sacre inaugural pour les rois de France, oui, de Pépin le Bref. Et à la suite de ceci, notamment Louis Ier le Pieux réitère quelques gestes de son grand-père lors de sa propre cérémonie. De plus, le sens en effet de ce sacre, de la part de Louis Ier le Pieux, est tout à fait significatif, d'où d'ailleurs le surnom donné à ce roi, en référence à sa grande piété, à son grand dévouement à l'Église. Et c'est lui qui voulait finalement tenir de l'Église ce qu'il avait déjà reçu 3 ans avant, en 813, puisqu'il avait déjà été couronné. Il avait déjà reçu en effet l'élection, le suffrage des électeurs, des grands vassaux, et sur le choix de son père. Charlemagne avait pris en effet le soin d'associer son fils à l'Empire pour qu'il n'y ait pas justement la réitération de ce geste fait par le pape en l'an 800. Sauf que le fils n'a pas fait ce que le père avait finalement prévu. Enfin, essayer d'échapper en tout cas à cette revendication d'une sorte de prérogative pontificale. Là, c'est Louis le Pieux qui a fait appel au pape pour qu'il vienne à Reims en référence à l'onction, enfin ce baptême, cette onction post-baptismale reçue par Clovis. Et ce qu'il cherchait en effet, c'est une sorte de légitimité religieuse, c'était obtenir de Dieu, de l'Église, son titre impérial.
Le lien évidemment avec la papauté est absolument essentiel. La papauté possède comme un intérêt à s'unir à Pépin le Bref, à faire de Pépin le Bref un roi sacré.
Oui, et puis le pape de l'époque avait des problèmes avec les Lombards, le peuple qui habitait donc la plaine du Pô, et le roi de France. C'était Pépin le Bref dès 751, fait appel à quelqu'un d'extérieur pour que les choses se passent mieux avec les Lombards. Et donc voilà, Pépin et la papauté sont alliés contre les Lombards.
Donc est-ce qu'on peut, alors on sait, hein, je pense que nos auditeurs et nos téléspectateurs le savent, puisqu'on le répète très souvent dans cette émission, religion et politique sont intimement liés. Ce lien entre le pape et Pépin le Bref est quasi naturel.
Alors, quasi naturel, je dirais pas exactement, mais en tout cas, il y a un secours qui est porté et qui est recherché par le pape, d'avoir un secours auprès du roi de France. Et les rois de France s'appuient sur la papauté pour, en effet, apporter une sorte de légitimité supplémentaire à l'élection. On est dans le cadre d'une royauté élective. Ce sont les grands vassaux qui élisent le roi et qui trouvent donc une autre dimension, une légitimité supplémentaire auprès du pape. Une sorte de service rendu de part et d'autre. Une légitimité pour l'un et un secours, un appui politique de l'autre.
Est-ce que on définit très vite les origines du sacre ? Est-ce que on légitime le sacre par la référence à la fois à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament?
Pour l'Ancien Testament, c'est sûr. Il suffit de regarder la façade de la cathédrale de Reims. Sur la façade de la cathédrale de Reims, il y a David qui combat Goliath. Et David a été sacré.
Donc, ce que vous dites, c'est que dans l'Ancien Testament, l'idée de sacre est beaucoup plus prégnante qu'elle ne l'est dans le Nouveau Testament.
Je pense que oui.
Oui, il y a en effet une référence à l'onction royale. Elle s'inspire, elle prend pour modèle, c'est le modèle davidique. Hein,
oui.
Ça prend en effet, ça s'inspire, ça fait référence au premier livre des rois où on voit en effet le prophète Samuel oindre donc le premier roi juif qui est donc Saül et également donc son successeur David. Et c'est le modèle davidique qui est repris pour les rois de France. On a dans nos textes hein, beaucoup de références. De comparaison au roi David, beaucoup d'associations, en effet, de comparaison, d'analogie entre les rois de France et ses références des rois hébreux de l'Ancien Testament.
Et alors, quand Jésus, en fait, est jugé devant Ponce Pilate, le Christ s'adresse bien à Ponce Pilate en disant, voilà, ton pouvoir, tu ne l'aurais pas si tu n'avais pas été choisi par Dieu. Est-ce qu'il y a cette notion d'élection? Vous parliez tout à l'heure d'élection. L'élection, c'est le choix. Est-ce qu'il y a cette conscience chez Pépin le Bref, plus tard chez Louis le Pieux, d'être élu, d'être choisi de Dieu sur le fondement de ce qui est dit précisément dans le Nouveau Testament?
Il y a des références explicites, en effet, il y a des références vétérotestamentaires explicites dans nos textes, en effet, du
Oui, mais vétérotestamentaire, c'est donc l'Ancien Testament.
Oui.
Pour le Nouveau Testament, moi je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup.
En dehors de ce passage. Comment définir le sacre? Est-ce que c'est un rite de passage? Et si j'ai souhaité faire cette émission sur Catéo, c'est parce que pour les catholiques le sacrement a un sens. C'est il y a un monde d'avant et un monde d'après quand on se marie, quand on est ordonné prêtre. Est-ce que le sacre d'un roi est un rite de passage?
Oui, c'est un rite de passage par cette onction. Le roi cesse d'être un simple laïc, un simple homme. Il y a une transmutation du personnage du roi et qui devient donc un roi sacré. Et il y a tout un ensemble de rites, sans doute qu'on y reviendra sur ce point, sur ces rites préliminaires qui participent de la préparation du roi, de ce passage, de cette transmutation de la personnalité du roi.
Bruno Maes.
Oui, je pense que c'est important et je crois que c'est vraiment une chose essentielle.
Est-ce qu'on peut dire que le roi sans sacre n'est pas considéré comme le roi?
Ça dépend des moments. Par exemple, Jeanne d'Arc va voir Charles VII, le victorieux, en 1429. Il est roi depuis 1422. Comment l'appelle-t-elle? Elle l'appelle gentil dauphin. Comme si il n'était pas roi. Donc, au Moyen-Âge, en particulier pour une personne comme Jeanne d'Arc, quand le roi n'est pas sacré, il n'est pas roi. Et à d'autres moments, par exemple, Louis XIII, son père, Henri IV, est assassiné et il est roi tout de suite puisqu'il fait un lit de justice pour confier la régence à sa mère, Marie de Médicis.
C'est-à-dire que l'expression « le roi est mort, vive le roi », elle n'est pas en soi si évidente que cela.
Oui.
Le sacre est un passage obligé?
Je pense que oui.
Alors, il y a une évolution dans le temps, si on prend sur l'ensemble de la période, notamment pour les Carolingiens. Le sacre, il a été ici voulu par Louis Ier le Pieux, justement pour légitimer religieusement son pouvoir. Il voulait donc avoir une sorte d'élection divine à la suite de l'élection politique qu'il avait reçue. Ensuite, pour les premiers Capétiens, la situation est voulu, ils vont mettre en place ce qu'on appelle le sacre anticipé, la désignation et le sacre anticipé, ce qui va permettre en effet d'inscrire le souverain, le successeur, et d'asseoir une continuité, d'assurer une continuité dynastique.
Et donc ça dure.
Et donc le sacre est antérieur au couronnement proprement dit. Et ensuite, au moment où, en effet, le principe dynastique est définitivement établi et fondé, à partir de là, le sacre, il se déconnecte, en effet, il n'est plus anticipé, il se déconnecte du moment du de l'arrivée au pouvoir, hein, puisque on a en effet, vous l'avez dit, c'est le mort qui saisit le vif, ou vive le roi, on retrouve ces adages, hein, vive le roi est mort, vive le roi, c'est-à-dire c'est le principe de la continuité, la continuité du pouvoir, ça renvoie à cette théorie des deux corps du roi, où le corps mystique du roi ne meurt jamais, et lorsque le roi décède, son successeur a sans délai, sans confirmation, il a cette légitimité politique, et il est considéré comme roi. Donc le sacre ne fait plus le roi à partir de là. C'est la mort du roi, ça va être un autre rituel, c'est le rituel des funérailles qui va jouer du coup ce rôle de transmission de la royauté et du pouvoir. Et plus on avance en effet dans le temps, notamment donc à l'époque moderne, on va avoir une distance dans le temps entre le couronnement, on va dire l'avènement du souverain et son sacre. Ça peut aller de quelques mois par exemple pour Louis XIII ou à quelques années pour Louis XIV. Donc est-ce que c'est le sacre qui fait le roi? Ça va dépendre de
l'époque. Bruno Maes, vous vouliez ajouter
quelque chose? Mais en fait, UKP monte sur le trône en 987. Il y a une sorte de miracle capétien jusqu'en 1328. Donc avec le sacre anticipé du vivant du père, et en 1328, il n'y a plus personne. Donc ça dépend, et c'est donc le début de la guerre de 100 ans. Et Jeanne d'Arc arrive après. Jeanne d'Arc d'un milieu modeste arrive après. Elle arrive dans les années 1420. Donc ça dépend vraiment des lieux et des temps.
Et de l'opinion. De ce qui représente, en effet, de ce qui fait, ce qui est constitutif de la royauté pour les populations.
Alors, je voudrais, enfin, on s'attache aux termes, et en histoire, les termes sont extrêmement importants, hein, comme en science. On évoquait le baptême de Clovis, on évoque le couronnement, le sacre. Est-ce qu'il y a des couronnements sans sacre ou des sacres sans couronnement? Je me souviens très bien de mon professeur d'histoire médiévale en deuxième année qui me disait que voilà, Charlemagne n'avait pas été sacré à Rome, mais qu'il avait été couronné.
Oui, mais il avait été sacré avant.
Et il avait été sacré avant.
Oui.
Voilà. Donc, quelle différence, au fond, entre le sacre de Charlemagne et son couronnement? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce que le couronnement apporte que le sacre n'a pas apporté, ou réciproquement?
Quand Charlemagne a été sacré, il a reçu une couronne, mais c'était une couronne qui n'était pas une couronne fermée, c'était une couronne ouverte.
C'est-à-dire?
Quand vous voyez les empereurs ont une couronne qui est fermée. La couronne, c'est un demi-cercle, si
oui,
vous voulez.
Oui.
Et la couronne ouverte, c'est simplement le bandeau.
Oui. Et enfin, quelle est la différence de sens?
Justement, il n'y a qu'un empereur.
Oui.
Quand Charlemagne est couronné empereur à Rome, il est couronné pour tout l'Occident. Alors qu'avant, il était simplement sacré et il avait une couronne de roi. Cette fois, il est couronné empereur.
Donc il y a une dimension géographique, finalement.
Universelle.
Et quand l'empereur de Byzance, qui existait à l'époque, il a très mal vu le fait que Charlemagne soit couronné empereur. Parce que des empereurs, il n'y en a qu'un.
Et alors, cette distinction, on la retrouve à d'autres époques, entre sacre et couronnement, où on peut dire que l'un et l'autre sont finalement associés, au-delà du baptême de Clovis qu'on évoquait, avec la colombe qui apporte l'huile qui permet de oindre le roi.
La distinction entre le sacre et le couronnement, là encore, il faut recontextualiser par rapport aux époques, puisque on a évoqué le sacre anticipé, notamment pour les premiers capétiens qui abandonnaient à partir donc de Philippe Auguste. Donc, ça va dépendre à quel moment on se situe, en effet, sur la signification même du couronnement ou du sacre, s'ils sont concomitants, si l'un anticipe l'autre ou s'il lui succède. Du coup, l'apport et la signification du sacre ou du couronnement sera différent. Est-ce que c'est juste obtenir finalement la souveraineté sur le royaume, obtenir une reconnaissance et une sacralité une sacralité, puisque c'est de cela dont il s'agit avec le sacre. Cela diffère en effet en fonction des premiers capétiens, à partir donc de Philippe Auguste, ou ensuite à partir notamment de Charles VI et Charles VII. On a une évolution de cette conception de la temporalité.
Alors qu'à l'époque moderne, l'un et l'autre sont associés, XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, le sacre et le couronnement ont vraiment lieu en même temps.
Oui, ça dépend.
Ça dépend aussi.
Tous les sacres n'ont pas eu lieu à Reims. À l'époque d'Henri IV, la ville de Reims était tenue par la famille de Guise-Lorraine.
Et donc, il a été à Chartres.
Et donc, Henri IV a été sacré à Chartres, pas avec l'huile du baptême de Clovis, mais avec une huile plus ancienne qu'un ange. C'est important. C'est un ange qu'il a donné à Saint-Martin. Et donc, c'était un siècle avant le baptême de Clovis.
Alors, on le voit bien, l'histoire des Francs, le roi des Francs, joue un rôle spécifique dans l'émergence de cette pratique. Est-ce que on peut dire que les Francs, et non pas la France, les Francs ont été précurseurs dans cette pratique? Alors vous allez me dire, il y a le Nouveau Testament, il y a l'Ancien Testament, mais à l'époque médiévale.
Alors, il faut rappeler en effet que Clovis, il a reçu on parle de baptême.
Oui.
Pour Clovis. Et on va dire qu'on a une sorte de torsion historiographique qui ne date pas de l'époque de Clovis ou de Grégoire Le Tour, mais davantage c'est postérieur. On va dire qu'on va être au 7e siècle avec Frédégère et après au 9e siècle avec Hincmar, et c'est là que se construit finalement cette légende que Bruno a rappelée avec cette colombe, donc Saint-Esprit venu donc apporter la Sainte Ampoule, cette huile utilisée pour oindre Clovis et qui sera ensuite réutilisé par la suite pour les rois de France. Donc, on va dire, c'est sous la plume d'Hincmar, Clovis inaugure
Hincmar de Reims.
Hincmar de Reims, tout à fait, l'archevêque de Reims. Et qui voulait, par ce biais, par son récit, par sa réécriture de la vie de Saint-Remy, qui voulait mettre en avant la cité de Reims et de son église.
Bruno Hess.
Oui, Marion a tout à fait raison de dire ça.
Est-ce que la question c'était, est-ce que les Francs finalement sont précurseurs?
Non.
Puisque j'ai commencé l'émission par l'Angleterre, on parle du sacre et du couronnement de Charlemagne. Est-ce que ces Francs sont précurseurs cette pratique qui va se développer en Europe au fond?
En fait. Les premiers sacres ont eu lieu en Espagne, chez les Visigoths.
D'accord.
Et puis, les musulmans sont arrivés. Donc, il n'y a plus de Visigoths. Mais, de fait, à partir du moment où Pépin le Bref monte sur le trône, en 751 et surtout 754, cette fois, c'est une nouvelle dynastie qui monte sur le trône. Et le but des Carolingiens, c'est de conduire son peuple au salut. Ce qui n'était pas le cas chez les Mérovingiens. Cela dit, chez les Mérovingiens, dès qu'un roi est sacré, normalement, il ne peut plus être assassiné. Mais chez les Mérovingiens, quand on tuait les rois, et il y a beaucoup de rois mérovingiens qui ont été tués, on reprenait quand même comme roi quelqu'un des rois chevelus, des Reges Criniti, parce que les Mérovingiens avaient leur force dans leur chevelure. Donc je n'aurais pas pu être roi chez les Mérovingiens.
Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'au fond, la chevelure était un signe de force, était un signe d'élection,
oui.
Quand le sacre, au fond, au 8e siècle, va devenir, lui, ce signe d'élection par rapport aux Mérovingiens.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Et quand Pépin le Bref prend le pouvoir, donc Pépin le Bref est le fils de Charles Martel. Charles Martel était maire du palais, c'est-à-dire que c'était le maire du palais qui avait tout le pouvoir, et le roi finalement avait peu de pouvoir. Donc quand Pépin le Bref oblige le dernier roi mérovingien, qu'est-ce qu'il fait ? Il lui fait il le tond et il le met dans un couvent.
Donc Childéric III a été évincé en effet par Pépin, et d'où cette nécessité de fonder une nouvelle, on va dire, race royale. Et cette onction donc de 754 a cette fonction là d'asseoir une dynastie. Pépin ne pouvait pas prétendre asseoir sa légitimité sur une ascendance qui ne pouvait pas, en tout cas, prouver une quelconque légitimité.
Il y a un double rite, au fond, parce que Childéric, c'est Childéric ou Chilpéric ?
Childéric III.
Childéric III. Donc Childéric III est tondu, parce qu'on sait que son pouvoir, enfin, un des symboles du pouvoir est dans la chevelure, et on substitue à cette chevelure, au fond, un rite sacré. Que nous dit, au fond, le sacre ? On sait que nos téléspectateurs le savent, le souverain pontife, c'est le pont entre le ciel et la terre, ou la terre et le ciel. Est-ce qu'on peut dire la même chose du roi sacré ? Est-ce qu'il est un lien entre Dieu et les hommes ?
Alors, en effet, le pontifex, c'est le pont. On pourrait en effet repartir sur cette idée pour les rois de France qui, par le sacre, sont chargés d'une mission. D'ailleurs, il y a des serments prononcés pour l'Église, des serments à l'égard du royaume. Et donc, il y a une mission religieuse particulière qui est attribuée au roi de France par cette onction royale. Et cette mission, c'est de mener le peuple vers le salut, c'est de préparer la réalisation sur terre de la cité de Dieu. Donc, oui, il y a un pont. Il y a un pont également qui est mis en place, en tout cas, vers lequel le roi de France doit aspirer.
Le roi de France doit rendre compte de ses actes devant Dieu, Bruno Maes ?
Oui, tout à fait. Il doit conduire son peuple au salut.
C'est sa vocation. Dès lors qu'il est sacré, c'est sa vocation.
Oui, tout à fait. Il y a une sorte de relation paternelle avec son peuple.
Donc c'est une obligation vis-à-vis du peuple, au fond,
oui,
vis-à-vis de Dieu.
Tout à fait.
Alors, on peut lire, après avoir vu et compris ce qu'est le sacre, je voudrais en arriver au rite en lui-même. Alors, on lit dans l'ouvrage qu'il s'agit d'une cérémonie qui se prépare pendant plus d'une année.
Oui.
Et c'est un événement qui, au fond, dure qu'une seule journée. Comment s'organise un sacre ? Et est-ce que, avant d'en venir au rite lui-même, on verra plus tard, comment s'organise un sacre et comment le roi lui-même se prépare à ce sacre ?
Donc, il faut savoir que chaque sacre est unique. Par exemple, le sacre de Charles III est différent de celui de sa mère, Élisabeth II, quelques décennies auparavant. Il y a des choses qui ont lieu dans ce sacre et qui n'existent pas pour Élisabeth II. Et pour les rois de France, c'est pareil. Donc, au départ, le roi passe une nuit en prière. Là je fais quelque chose de très général. Il passe une nuit en prière, comme pour quand on est adoubé chevalier. Ensuite, le matin du sacre, le deuxième père de France, père P-A-I-R, va chercher la Sainte Ampoule. La Sainte Ampoule n'est pas la cathédrale, elle est à Saint-Remy. Donc le deuxième père de France, l'évêque de Laon, va chercher l'ampoule pour la mettre à la cathédrale. Et ensuite, le roi s'achemine, comme on l'a vu pour Charles III en Angleterre, s'achemine vers la cathédrale. Ensuite, le roi prête des serments. Et l'assistance dit fiat fiat, comme celui de la Vierge Marie. Et puis ensuite.
Donc c'est un geste d'acceptation.
Oui, un geste d'acceptation. Soit la foule ne dit rien.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un geste d'élection ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un choix ?
Plutôt un consensus. C'est plutôt là.
Qui ne dit mot consent ?
C'est ça. On mime de rejouer l'élection finalement ancestrale. On verra, il y a d'autres symboles également, hein, la présence des pères, les gestes qu'ils réalisent, finalement, recréent peu cette élection primitive. Mais là, c'est juste plutôt une acceptation d'un consensus.
D'accord.
Et puis donc, voilà, les serments, et puis ensuite vient l'onction, hein, et l'onction... À différents endroits du
corps.
Du corps du roi.
Donc le roi est... enfin, le roi n'est pas nu, mais il est,
oui.
Enfin,
comme,
il est en simple chemise.
Comme Charles III, hein, il y avait, vous vous souvenez, il y avait une sorte de choses qui faisaient qu'on ne pouvait pas voir le roi. Mais à la cathédrale de Reims, c'était moins évident.
Est-ce que, parce que je reviens dans la préparation quand même, parce que là on est rentré dans le rythme, mais je voudrais insister sur la préparation. Est-ce que le roi se prépare dans son année avant le sacre, un peu comme aujourd'hui, voilà, il y a des préparations au baptême, bon ben il y aurait une préparation au sacre, est-ce qu'il y a un enseignement du roi, est-ce que voilà, il a des obligations religieuses dans l'année précédant le sacre?
Oh. Je vais déjà compléter un peu ce
oui,
que Bruno a dit. En effet, pour chaque sacre est différent. On s'appuie pour cela sur des textes normatifs, entre autres, ce qu'on appelle les pontificaux, qui contiennent donc les ordinesses, c'est l'ordo du sacre, c'est-à-dire c'est le déroulé du sacre, hein, ce que Bruno justement retraçait, c'était cette ordo du sacre, et on l'a consigné, on a plusieurs comme ça textes de référence sur lesquels s'appuyer pour préparer un nouveau sacre, tout en y ajoutant et en y réalisant quelques ajustements par rapport au contexte, par rapport à l'idéologie royale du moment également. Donc ce sont les pontificaux, des ordres. On va dire que sous Saint Louis, on a une sorte de sécularisation de ces textes qui étaient davantage dans un domaine religieux et qui ensuite sort de ce domaine de l'Église. On a des versions non plus latines, mais des versions en langue vernaculaire et qui petit à petit, notamment ce grand ordo que l'on lui doit et qui renvoie davantage finalement à une sorte d'illustration de l'idéologie royale plutôt qu'un programme de sacre, un programme de sacre antérieur ou un programme qui serait à suivre pour fixer un nouveau sacre. Mais en tout cas, on a un support, on s'inspire en effet sur ce que les prédécesseurs ont fait pour pouvoir organiser un nouveau sacre. Ensuite, concernant le roi lui-même, il se prépare, il va avoir une préparation qui va être de l'ordre, on va dire, spirituel, avec la fameuse veillée, cette confession, la veille du sacre. Il va également jeûner, soit sur juste quelques jours, soit sur un temps un peu plus long. Il y a vraiment une sorte de... ce sont des rites préliminaires qui renvoient à cette transmutation qu'il va connaître dans le cadre du sacre. Et ces rites préliminaires servent donc à le purifier. Ce sont des rites de purification. Donc c'est par ce biais-là qu'il va se préparer à son sacre.
Alors, je ne reviens pas sur le lieu en lui-même, hein, parce que vous l'aviez bien dit, hein, il n'y a pas que Reims, il y a aussi d'autres lieux. Je reviens sur les acteurs du sacre. Quel rôle jouent les pairs de France et qui sont ces pairs de France?
Donc, il y a 6 pairs ecclésiastiques, donc chaque fois 3 ducs et 3 comtes, et il y a 6 pairs laïcs. Si vous voulez voir les pères représentés, vous allez dans la basilique Saint-Remi, l'ancienne abbatiale Saint-Remi, et ils sont autour de Saint-Remi. Donc le premier, c'est l'archevêque de Reims, hein, qui officie. Hein. Le deuxième, c'est l'évêque de Laon. Et chacun a des responsabilités respectives. Et les pères laïcs s'intéressent beaucoup aussi à l'aspect, donc au début du sacre, quand le roi, par exemple, quand on lui donne l'épée qui s'appelle Joyeuse, quand on lui donne les éperons d'or, les pères laïcs ont un grand rôle dans ce domaine-là.
Ils sont partie prenante de la cérémonie ?
Tout à fait, ça fait partie de leur privilège. On va dire ce qui caractérise les pairs, c'est pas les pairs de France, c'est pas un titre de noblesse, c'est un office. Ils détiennent donc une pairie et ils ont des fonctions, ils ont des privilèges, ils ont des fonctions politiques, notamment ce sont eux qui doivent assurer la succession. Et c'est eux qui décident s'il doit y avoir une régence qui doit être mise en place ou pas. Ils ont également donc des privilèges d'ordre judiciaire, ils peuvent siéger au Parlement de Paris, et ils ont une fonction, un privilège, on va dire, honorifique, c'est qu'ils prennent part au sacre. Et comme Bruno l'a dit, en effet, ils interviennent au moment de la remise des régalias et des insignes chevaleresques. Donc au moment de la sorte d'adoubement, si vous voulez.
Les régalias
Les régalias, ce sont les symboles de la royauté.
Donc la couronne.
Il y a la couronne.
Le sceptre.
Il y a le sceptre, il y a la verge. Donc c'est le bâton de commandement le sceptre.
La main de justice.
Et la main de justice, tout à fait. La main de justice.
Charles III avait l'orbe, ce qu'on appelle l'orbe, c'est-à-dire le globe surmonté d'une croix.
Oui.
Il y avait la même chose là, si on voit sur la couverture.
Oui, mais là, c'est Charlemagne.
C'est Charlemagne.
C'est Charlemagne.
Et donc, c'est le symbole de l'universalité.
Oui, tout à fait.
Tout à fait.
Et Charlemagne, sur cette photo, a bien une couronne fermée, comme vous le voyez.
Exactement. Alors, donc, les pairs portent les symboles, les régalias.
Les régalias et les insignes de la chevalerie. En fait, ce sont deux étapes, on va dire, dans la cérémonie du sacre. Une sorte de... comme si on recréait un adoubement avec la remise des insignes de chevalerie, parce que le roi est ici un roi chevalier. Et ensuite, il y a la remise d'autres insignes qui sont ce qu'on appelle les régalias et qui sont des symboles du pouvoir et de la royauté. Et il y a notamment ce signe, ce geste qu'il réalise, c'est qu'il portent en effet tous ensemble la couronne sur la tête, au-dessus de la tête du roi.
Donc là je n'ai pas terminé ma liste. Donc les pères portent la couronne, donc après l'onction, ils portent la couronne et ils la mettent sur la tête du roi, tous ensemble. Donc quand on voit l'archevêque de Reims qui porte la couronne, il n'est pas seul.
Et ils le conduisent jusqu'au trône, c'est l'intronisation.
C'est très intéressant parce que tout le monde a en tête le fameux tableau de David, le couronnement, et s'il y a une forme de triomphe. Alors peut-être que ce triomphe aussi est lié à la monarchie des temps modernes, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Mais là, ce qu'on voit, c'est les pères de l'Église qui, en quelque sorte, sont partie prenante et agissent. Et le roi est, on imagine à genoux, il est dans. Voilà, il reçoit. Il n'y a pas d'idée de domination, au fond.
Non, on retrouve justement on rejoue la fameuse élection que je vous ai évoquée tout à l'heure.
Alors. Vous avez évoqué, on a évoqué la couronne, le sceptre, les insignes de la chevalerie, ce sont les éperons.
Les éperons d'or, l'épée.
Et les souliers.
Voilà. Et donc, le roi, tout au long de la cérémonie, revêt l'ensemble, ou porte l'ensemble, ou touche l'ensemble de ces objets,
et gants, échange... Et les gants, pardon, je vous coupe.
Allez-y, je vous en prie.
Il y a en effet les gants.
Et les gants.
Les gants,
bien sûr. Donc, en fait, il s'habille, il revêt les... On imagine qu'au fil des siècles, on voit le portrait de Louis XIV sacré, le portrait de Louis XV sacré. Tout ça, ce sont des portraits qui montrent qu'il y a beaucoup de choses. Ce sont des éléments qui s'ajoutent au fil des siècles.
Alors, dans ces portraits sont très intéressants. Certains sont des portraits, en effet, officiels, où le roi va remettre les habits du sacre. D'autres vont aussi se parer de ces vêtements du sacre sans forcément avoir été pourtant sacrés au préalable. Donc, ce sont ce qu'on pourrait qualifier des portraits non officielles. J'ai en tête Louis XVIII, notamment, avec son portrait en habit de sacre, alors qu'il n'a pas été sacré. Donc on va rejouer, en quelque sorte, on va mimer le sacre en revêtant, en effet, ses régalias et ses symboles. Et en effet, cela... On a dit, les sacres et également ces insignes, tout ceci évolue dans le temps, c'est pas figé.
L'onction et le couronnement sont les deux moments les plus importants du sacre, Bruno Maes.
Ce sont deux moments très importants, et peut-être même les deux plus importants. Et je pense que l'onction est quelque chose d'essentiel. L'onction qu'on a vue, qu'on voit pour la France... et qu'on voit pour l'Angleterre, et l'empereur était aussi sacré.
C'est-à-dire que, alors, nous, Français, nous avons l'ampoule du baptême de Clovis,
oui.
Les Anglais avaient leur propre ampoule, et
Je crois, malheureusement, d'après ce que dit M. Contamine, dont nous avons suivi les cours, qu'il n'y a que l'huile anglaise ne vient pas du ciel.
Il y a une légende, en effet, qui date du XIVe siècle, sur laquelle ce serait la Vierge qui aurait apporté, donc c'est à Saint Thomas Becket, une huile et un aigle en or. Donc là encore, on revoit la référence donc, au Saint-Esprit.
Oui.
Il y a un parallèle, en effet, avec ce Saint-Esprit qui est descendu sur Jésus au moment de son baptême dans le Jourdain. Donc on va dire que l'Angleterre a voulu aussi avoir son ampoule sa légende, mais c'est plus tardif, on est au XIVe siècle.
On n'a pas parlé de l'Espagne, on n'a pas évoqué l'Espagne. On est dans les mêmes idées, dans les mêmes représentations. Il faudrait un spécialiste de l'Espagne.
Voilà.
Il ne me semble pas. Il me semble que vraiment... En tout cas, si on s'en tient notamment à ce caractère particulier de l'huile utilisée en France et en Angleterre, les rois en tiennent un pouvoir thaumaturgique. Et si on reprend...
En Angleterre aussi, les rois, pensons au livre de Marc Bloch, les rois thaumaturges, ils comparent la royauté française et la royauté anglaise qui, même à l'époque où elle était devenue protestante, les rois continuaient à guérir jusqu'au XVIIIe siècle.
Alors, il y a un objet dont on n'a pas parlé et qu'évoque Yves-Marie Berset.
Oui.
On salue Yves-Marie Berset parce qu'on sait qu'il regarde l'émission et c'est un fidèle téléspectateur de l'émission Risque de l'Histoire. Et Yves-Marie Berset nous dit, dans l'ouvrage que j'ai présenté en début d'émission, l'importance de l'anneau. Il parle de véritable mariage mystique. Quand je parlais tout à l'heure de peuple, l'anneau est le symbole de l'alliance du roi et du peuple.
Alliance du roi, du peuple, de son royaume. Et en effet, Yves-Marie Berset a bien montré finalement un peu la construction et l'évolution de ceci. Au départ, en effet, c'est un mariage spirituel, mais qui serait, on va dire, vraiment avec une mise en œuvre politique qui ne sortirait uniquement de l'imagination des juristes, et une évolution au XIVe, XVe siècle, avec une plus grande mise en œuvre politique, davantage affirmée à partir de ce moment-là.
Et en fait, finalement, le roi, quand il est sacré, n'est plus un laïc.
Est-ce qu'on peut parler d'un roi-prêtre ?
Moi, je pense que oui.
C'est une expression qui se retrouve dans les sources ?
En tout cas, Victor Hugo a parlé d'un roi-prêtre. Et l'évêque porte un anneau, signe qu'il est marié avec ses diocésains. Le roi ne communie plus simplement sous l'espèce du pain. Il communie sous l'espèce du pain et du vin.
Comme le prêtre.
Tout à fait.
Alors, après le rite du sacre, il y a la guérison des écrouelles. Que représente la guérison des écrouelles ?
Donc, les écrouelles, ça ne fait pas partie du sacre.
Ça ne fait pas partie du sacre.
Oui.
Ce n'est pas parce qu'on est sacré qu'on arrive à guérir les écrouelles.
Alors, il y a un lien, mais ce n'est pas le même rituel. C'est un autre rituel.
Alors, expliquez-nous.
Donc, vous savez que pour... guérir des écrouelles, c'est des sortes de bubons. C'est un, c'est un, la spéciation de Saint Marcou, hein, c'est parce que Mars est mauvais, et Cou, c'est parce qu'il y a des bubons autour du Cou. Donc le roi fait un pèlerinage à Corbeny, où il y a un prieuré à Saint Marcou. Le roi, et donc le roi fait ce pèlerinage, non pas pour guérir les écrouelles, mais pour acquérir le pouvoir de Saint Marcou de guérir les écrouelles. Et donc, après avoir fait son pèlerinage à Saint-Marcou, il sort à Saint-Marcou, il remet ses habits royaux, et là, il touche les premiers scrofuleux. Les scrofuleux, c'est-à-dire les gens qui ont les écrouelles. Et ensuite, plusieurs parents, à Pâques, au 15 août, le roi continue à toucher les écrouelles. Les écrouelles sont très nombreux à venir être touchés par le roi.
Donc c'est en effet un rituel qui est lié au sacre, qui est lié à l'onction royale reçue par le roi au moment du sacre. Ça a lieu, bien souvent c'est le lendemain du sacre, ou ça peut être quelques jours plus tard, ou à plusieurs autres moments au cours du règne.
Et donc les scrofuleux souhaitaient être guéris de leur mal, mais la dernière personne sacrée à Reims, c'est donc Charles X, après la Révolution. Il y a beaucoup de scrofuleux qui voulaient être guéris, mais Charles X ne voulait pas toucher à ces scrofuleux. Donc finalement, il a fini par les toucher à l'hôpital Saint-Marcou de Reims.
Alors, il y a un sujet que nous n'avons pas évoqué jusqu'à présent, c'est la reine. Est-ce que la reine peut être sacrée ou couronnée également ?
La reine est aussi couronnée.
Mais pas sacrée.
Elle peut être sacrée.
Elle peut être sacrée.
Oui. Elle peut être également sacrée.
Elle est sacrée.
Oui, oui.
Sur la première page, la page 1, vous avez ici le sacre de Charles V, et la reine est sacrée en même temps que lui.
On a plus d'une trentaine de reines qui l'ont été.
En Europe.
En France.
La majorité d'entre elles l'ont été. Lorsqu'elles n'ont pas été sacrées, souvent c'était pour des questions, on va dire, des raisons conjoncturelles.
Il y a eu en fait 33 rois sacrés à Reims et aussi 33 empereurs sacrés en Allemagne. Et pour certaines, elles peuvent être sacrées avec leur mari. Hein, mais la dernière reine sacrée, c'est Marie de Médicis, donc la deuxième femme d'Henri IV.
Est-ce que les obligations du roi et de la reine ne sont pas identiques, on imagine ?
Tout à fait, c'est-à-dire qu'on dit qu'elles sont... bien souvent, on va dire pendant longtemps, ils ont été sacrés ensemble lors de la même cérémonie. Évidemment, la reine, après les grands moments importants qui fondent en fait cette monarchie sacrée, cette royauté sacrée. Toutes les remises des régalias, l'onction également pour la reine est fait après le roi et non pas avant. Par contre, à partir déjà du XVe siècle, on voit une évolution, à la fois une prise de distance dans le temps et dans l'espace. Le couronnement et le sacre de la reine devient déconnecté de celui du roi et plutôt réalisé au moment de la première entrée de la reine dans la capitale. Et on a un déplacement du coup aussi géographique, puisque le sacre des reines a tendance à se déplacer à Saint-Denis. On va dire que Saint-Denis serait l'équivalent pour les reines, ce que Reims représente pour les rois.
Mais plutôt l'époque moderne.
Oui, exactement.
Alors justement, sur l'époque moderne, il reste à peine 4 minutes. Est-ce qu'on assiste à une évolution du sacre ? Est-ce que la théâtralisation prend le dessus sur le sens du rite lui-même avec l'époque moderne ?
Ça dépend des moments. Le sacre de Charles III est très présent et très important. En Belgique, c'est simplement un serment devant l'Assemblée. Mais cela dit, que serait la Belgique sans le roi ? Je me souviens, à l'époque où Baudouin II était décédé, dans Le Monde, il y avait une caricature par Plantu. Il y avait d'un côté la file des Flamands qui allait voir le roi défunt, d'un côté la file des Flamands, il regardait le roi, et après avoir vu le roi, il n'y avait plus qu'une seule file. De même, quand en février 1981, quand Juan Carlos était monté sur le trône, les partisans de Franco ont essayé de renverser le roi, et finalement, le roi a dit que il fallait garder la démocratie. Mm. Et le chef du parti communiste espagnol a dit à Juan Carlos, sire, vous nous avez sauvés. Mm.
Marion Pouspin, oui. Évolution, théâtralisation.
Sur cette théâtralisation, la théâtralisation elle s'est renforcée à l'époque moderne. Ça va également de pair avec l'évolution justement des fameux pairs de France. Il y a tout un jeu de truchement de ces pairs de France, puisqu'à partir du XIIIe siècle, on va dire, les pères que Bruno a mentionnés ont disparu, les pairies ont disparu, ont été absorbés, réintégrés à la couronne, donc au royaume de France, mais on continue de rejouer et donner une place aux pairs de France dans le cadre de la cérémonie du sacre. Et pour cela, on va instituer donc de nouveaux, quelque sorte, acteurs qui vont jouer ce rôle des pairs de France. Mmh. Mais ce ne sont plus les pairs de France d'antan. Les anciens. Donc il y a une théâtralisation par ce biais, mais il y a une théâtralisation également par toutes les festivités qui sont organisées, par les publications également, qui relayent cette grande pompe et magnificence de ces festivités. On a des livrets de sacs, des livrets de festivités qui sont également diffusés. Et on a en effet une théâtralisation de la cérémonie et une médiatisation, en tout cas de celle-ci. Si je fais l'évolution par rapport à l'époque contemporaine, où Bruno parle en effet de ce nouveau rapport et de la nouvelle signification du sacre, ce qui s'explique par la sécularisation de nos sociétés. Si on prend le cas de la France, on voit qu'on a un autre rapport au sacre. Désormais, avec cette charte constitutionnelle notamment de 1830, par exemple, le roi ne peut plus être sacré, puisque ça a légitimité, il la tient de la nation. Il devient un roi citoyen, il n'est plus un roi sacré.
Donc un roi, on passe des rois de France, Louis XVIII et Charles X, un roi des Français.
Un roi des Français.
Exactement. Mmh.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Risque de l'Histoire pour évoquer donc ce sacre et ce rite sacre et couronnement en Europe. C'est le titre de l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Catherine Guyon et Jean-François Jiquel, auquel vous, Marion Pouspin, avez participé. Un ouvrage paru chez nos amis des presses universitaires de Rennes, et je mentionne aussi les travaux de l'Académie nationale de Reims.
Auquel Marion Pouspin a participé aussi.
Auquel Marion Pouspin a participé aussi. Donc, Les Sacres des Rois à Reims, un ouvrage publié en 2019. Pardon. Il me reste à vous remercier, chers téléspectateurs, chers auditeurs, pour votre fidélité à notre émission. N'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com, à regarder toutes les anciennes émissions que nous avons pu enregistrer. Nous avons parlé de Charlemagne, nous avons fait une émission sur Charlemagne, Saint-Louis, etc. Toutes ces émissions, vous les retrouvez dans la section de Risque de l'Histoire de ktotv.com. Et n'hésitez pas aussi à aller chez notre partenaire storiavoce.com. Pour tous les amoureux de l'histoire, un grand merci pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Risque de l'Histoire.
Écoutez KTO Radio.
Si dans l'orage, la peur m'envahit, aucun mon zèle ne tremble pas. Mon témoignage, vibrant de ta vie, sera lumière autour de moi. Tu donnes vie, tu te révèles, tu me conduis, me renouvelle. Et de ma nuit, un chant s'élève, mon âme brille, ma foi se lève. Jamais tu m'abandonneras, jamais tu ne me laisseras. Toujours mon cœur te lèvera, priant de moi, non jamais. Non jamais.
Aucun nuage, aucun ennemi ne fera taire. Prends lumière autour de moi.
Oh Dieu fidèle, tu restes là. Un chant s'élève, ma foi se lève.